sacrificios inimaginables antes que consentir que triunfen las fuerzas que representan un pasado de opresión, un pasado de tiranía. Todos contra la reacción, todos contra el fascismo, un solo frente, una sola unión, hombro con hombro, unidos todos hasta acabar con el enemigo. ¡Abajo los generales faciosos!
Sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore. Angel et la liberté. Angel, ex-condamné à mort par un tribunal militaire sous Franco en 1950, est finalement gracié. Il fait alors partie des nombreux prisonniers politiques qui surpeuplent les prisons de la dictature. Tout au long de sa détention, une seule obsession, la liberté. Cette obsession devient le fil qui le raccroche à la vie. Malgré sa peine de mort commutée à 30 ans de réclusion criminelle, Angel ne cesse d'y croire. Cette espérance lui évite de sombrer dans la folie. Cependant, l'oubli dans lequel la CNT l'a maintenu, alors qu'elle l'avait envoyé plein de rêves dans la gueule du loup, laisse une plaie béante qui ne cicatrise pas. La découverte d'un monde extérieur complètement métamorphosé est un choc.
Ah, on va commencer à trouver. Voilà ma sortie, le billet qu'on m'a donné, de train que j'avais pour aller à Madrid. Et ça, c'est le document qu'on vous donne quand vous sortez de la prison. On ne peut pas vous imaginer. Quand on sort de ces endroits marginaux, ce que ça représente de respirer hors des murs et sans avoir des barreaux. Ici, dans cette maison, vous ne trouverez pas des barreaux. Parce que tout le monde a les barreaux. Les fenêtres en bas, les barreaux. Je ne mettrai jamais, moi. Jamais de la vie. Jamais de la vie.
Pendant ma captivité, je mis tout en œuvre pour atteindre mes objectifs. Et tout d'abord, pour sortir le plus vite possible de ce lieu, où j'ai pu vérifier que l'adversité est un grand maître. Mais que ces leçons se payent très cher. J'ai tâché d'exécuter tous les ordres que j'ai reçus, obéissant avec patience, dans l'espoir que ma conduite m'aiderait à retrouver plus vite la liberté. J'ai fait beaucoup d'efforts pour ne pas finir comme ces non-hommes, en qui toute espérance s'est éteinte.
Eh bien, normalement, j'avais pas droit à sortir en liberté. Quand on est condamné à mort et on commute la peine de mort par celle de 30 ans de réclusion majeure, il faut faire minimum les deux tiers de la condamnation, c'est-à-dire 20 ans. Eh bien, je suis sorti, comme je vous disais, à 16 ans. Disons qu'il y a eu une petite magouille. J'avais fait la réparation d'un moteur d'un riche d'Ocaña, là. Fait que ce bonhomme, qui était aussi un représentant du gouvernement aussi, à Saragosse, bon, il m'a porté le moteur, la panne était assez grave, mais enfin, on a réparé son moteur. Et bien, il était tellement content, il voulait me donner de l'argent et tout, et je lui ai dit, non, moi, je ne veux pas d'argent, moi. Il était étonné. Pourquoi il ne veut pas d'argent, quand même, vous avez bien besoin. Ce n'est pas d'argent que je vous ai, moi, ce que j'ai besoin, c'est de la liberté. Alors je lui dis, vous savez, ça fait un mois que le Caudillo, il a donné une grâce, un sixième de la condamnation qui vous enlevait avec sa grâce. Donc moi j'ai 30 ans, si on m'appliquait ce sixième de grâce, eh bien je sortais en liberté. Il me dit, que puis-je faire moi? Si vous avez la possibilité de parler avec le capitaine général de Saragosse, de la 5e région militaire, il n'y a que lui qui peut signer ma liberté comme ça. Enfin, l'application de la grâce. Yo, mais je le connais. Mais on se voit presque tous les soirs. On joue aux cartes tous les soirs. Il n'y a pas de problème. Je le contacte. Bon, ça s'est passé comme ça. Le dimanche, après la messe, eh bien, je suis sorti de la liberté. la police, elle savait que j'allais sortir en liberté. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit à Gabino, qui était l'associateur là, il faudrait qu'on puisse contacter le Crous pour qu'il vienne me chercher. Parce que si je prends le train, je vais t'arrêter un peu plus loin. Et Crous, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un taxi pour venir à Ocaña. Ça fait quand je sors ma petite valise, ma sacoche, mais il y avait d'autres personnes qui sortaient avec moi. Comme il fallait attendre le train, et bien, allez, on s'en va au bar là-bas, on va prendre une bière, etc. Et ils m'ont dit, allez-y, allez-y. Et moi, je regardais, je ne voyais pas. Puis à la fin, je l'ai vu tout à fait en haut, là. Il m'a fait signe, et je m'en vais vers lui. On rentre dans le taxi, puis on s'en va. C'est pour ça que j'ai le billet et j'ai tout. Je suis parti avec Crous à Madrid. Ça coûtait un peu cher parce qu'il y a quand même 60 km quand même. Et le chauffeur, il nous écoutait quand on parlait, parce qu'on parlait de certaines choses, tout ça. Et quand on arrive, on lui demande combien on lui doit. Et ça a été merveilleux. Il dit, écoutez, vous payez l'aller et moi, je paye le retour. Ah bon? Il dit, moi, j'ai eu mon frère qui a été fusillé.
Je suis sorti de ce monde marginal, laissant derrière moi 10 ans de ma vie, dans le pénitencier d'Ocaña, et 5 autres dans divers lieux. Je découvre un autre monde, inconnu.
Je suis rentré en 1949, et je suis sorti en 1964. Le 12 juillet, 1964. Et on se trouvait avec un monde complètement différent. C'était quand il y a eu le boom, là, qu'il y a eu beaucoup de travail. Les gens, ils ont travaillé, ils ont commencé à acheter des appartements, etc. Donc, comme il y a eu ce boom, ils nous ont oubliés. Ils gagnaient de l'argent en travaillant, et puis ils vivaient bien, ils pouvaient manger à son aise, etc. Et ils nous ont oubliés à nous. On ne servait à plus rien, nous. Donc, ils ont fait leur bien, leur bien-être. Ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, etc. Et puis voilà, puis nous, on n'existait plus. Les engagements politiques, etc., ont disparu. Tout ça a disparu. Parce qu'il y avait l'appartement acheté, et des obligations que j'achète les vélos ou la voiture, etc. Et nous, on a disparu. Voilà la réalité, quand on parle de la CNT, comme l'autre, hein, comme l'autre. Les communistes, ils ont été plus constants quand même, hein, il faut le dire. C'est-à-dire qu'on avait une idéologie, on y croyait. J'ai jamais été fanatique, ça n'a pas question, parce que j'avais des amis communistes. Mais enfin, j'avais mes idées de liberté, je savais ce que je voulais comme liberté. Donc, il n'y avait pas de problème. Avec Bosque, comme je vous ai dit, que c'était un des groupes de mon père, il m'a raconté ce qui s'était passé et qu'ils avaient, eux, ils avaient quitté la CNT. Alors, c'est eux qui étaient des purs, vraiment des gens de lutte, des gens combattants, comment vous dire, bien sûr du chemin qu'ils avaient pris. Si eux, ils avaient quitté la CNT, qu'est-ce que j'allais faire, moi, là-dedans? Donc, j'ai eu de l'aide avec ces gens-là, mais pas avec d'autres, pas avec d'autres. D'ailleurs, j'avais un très bon poste à Lyon, je gagnais bien ma vie, hein. D'ailleurs, j'avais déjà prévu de m'acheter un petit studio et tout. Mais j'ai quitté parce que j'avais peur de me trouver avec quelqu'un des jeunesses libertaires, de mon groupe, de mes groupes. On était 130 ou 135. Et on nous a oubliés. Et non, ni Ibanez ni moi, on n'a jamais rien reçu d'eux. Jamais. Quand moi, j'avais besoin d'un livre et tout ça, je lui disais à mon père, puis entre nous et ses compagnies, il avait réussi les sommes qu'il fallait, puis il me l'envoyait. Mais les autres, non. Rien eu. La vérité, c'est qu'ils ont fait leur bien, eux. Et puis après, bon. Alors voilà, quand on se trouve dans des circonstances comme ça, que faut-il faire? Il faut partir.
Les années qui passent font de nous des marginaux dont personne ne se soucie et que l'on oublie peu à peu. À part un membre de notre famille ou peut-être un ami, les autres nous abandonnent. Ceux qui se disent des nôtres, ceux qui nous ont poussés à suivre l'aventure en nous exposant pour la liberté de l'Espagne, ces courageux en parole, eux nous ont laissé tomber.
Bon, si tu veux partir, eh bien, il y a Nouès qui habite Toulouse. Si tu veux, je te donne l'adresse ou le téléphone. Et Nouès, il a dit, purée, mais tu viens quand tu veux. Il habitait à la Roseraie. Ça fait que j'arrive à Toulouse. Lui, il avait fait de la prison aussi. Donc, il savait un petit peu les problèmes qui existent. Je lui ai dit, moi, ce que je veux, c'est commencer à travailler le plus tôt possible. J'ai pas d'argent. Hein, j'avais un peu d'argent que j'avais gagné, mais enfin, pas pour longtemps. Et je ne voulais pas vivre aux dépens des autres, quand même. Et il m'a dit, tu vas m'écouter et tu vas faire ce que je vais te dire. Ici, tu as ta chambre, tu as la table, tu es chez toi. Ici, c'est chez toi. Mais ce qu'il faut, c'est que tu changes, que tu arrives à t'adapter à la vie actuelle. Donc, ce que tu vas faire, c'est une chose. Je vais t'accompagner les matins. Je t'accompagne à Toulouse, dans le centre de Toulouse. Et puis, on va te donner un peu d'argent. Donc, tu vas à la place Capitole. On te laissera à la place Capitole. Tu t'assis à un bar, tu prends une bière ou un café, ce que tu veux, et tu regardes passer les gens. Et puis après, un autre jour, tu te lèves de la table et tu te mélanges aux autres. Tu te mélanges dans la place, tu te mélanges aux autres, tu vois, etc. Et puis, petit à petit, tu t'habitues. Alors moi, j'avais beaucoup d'études. Et donc, je savais beaucoup, mais je ne savais pas m'exprimer. Pratiquement, je ne savais pas m'exprimer. Et là, j'ai eu beaucoup de chance avec Christine. C'était la femme. Elle travaillait à Paul Sabatier. Elle était déjà dans les ordinateurs de l'époque, les grands ordinateurs. Donc, quand elle venait de son travail, on parlait plus de mathématiques que d'autre chose. Mais petit à petit, avec elle, eh bien, j'arrivais à apprendre à m'exprimer, à me rééduquer. J'ai commencé à savoir m'exprimer.
Je ne sais plus étreindre ou embrasser. Toutes ces années hors de la vie normale m'ont déconnecté de toute notion relationnelle. Ma timidité est manifeste. Je ne sais plus exprimer la joie, ni dire merci, ou simplement « je vous aime ».
Revenir à pouvoir s'exprimer, c'est revivre de nouveau. On vivait dans un monde marginal, qui n'avions pas de contact avec l'extérieur. Donc, le vocabulaire, si vous voulez, qu'on employait dans les bagnes, eh bien, c'est le vocabulaire du bagne. Ce n'est pas le vocabulaire extérieur. On ne parlait pas de marché, on ne parlait pas de cinéma, on ne parlait pas d'aller danser. On parlait que le bagne. On ne parlait que des cellules, que si on a puni un tel, si demain la messe va durer 2 heures, si après demain il y a le directeur qui va venir faire une visite, si on va avoir des fouilles. Le vocabulaire n'est plus le même.
Me sentir libre. Regarder le ciel sans l'obstacle d'une lucarne qui en fixe le contour ou de gris qui sectionne l'espace. C'est pour moi un bonheur, presque au-delà de mes rêves. Voir le ciel dans toute sa splendeur et dans son infinité, rompu seulement par la ligne d'horizon, m'ouvre à l'humanité entière. Je continue d'être un rêveur, dans une société matérialiste, où le rêve n'existe plus. La solidarité et la fraternité ne sont que des concepts, seulement bons pour les discours. La soif du pouvoir et la soif de l'argent règnent. ceux qui, comme moi, ont vécu dans un monde marginal, ont beaucoup de mal à s'adapter à la société qu'ils retrouvent.
Il nous fallait une réadaptation. C'est se trouver dans un monde qui n'est pas le tien, et puis s'adapter à leurs coutumes. C'est pour ça que Nunes m'avait dit, tu commences par boire une bière ou un café et regarder passer les gens pour voir comment ils marchent. Parce que leur démarche n'est pas la même que la tienne. Ils marchent librement, ils ont de l'espace, et nous, on ne pouvait pas marcher librement et on n'avait pas d'espace. C'est tout bête. Mais il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Et après, te mélanger avec les gens. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas la même situation d'être mélangé entre prisonniers qu'être avec des gens qui sont libres de ces mouvements. Nous, on n'était pas libres dans le monde. On avait un aller-retour, tandis que à Passe-Capitole, c'était pas un aller-retour, c'était un croisement des gens. Ce sont des détails que vous ne pouvez pas vous imaginer. Et je souhaite que vous ne l'imaginez jamais. Vous pouvez vous faire une petite raison si vous voulez, mais c'est tout, parce que vous m'écoutez. Et vous allez voir des photos et autre chose. Mais parce que même quand vous voyez des films de prisonniers, etc., ça n'a rien à voir. Mais absolument rien à voir. Donc l'habitude, ce qu'il fallait se réhabituer, c'était pas seulement d'aller au restaurant et tout ça, mais de contact avec les gens. Même je vous dirais que j'avais peur de me trouver avec les gens. Pas peur, mais une certaine crainte. Quand on rentre parmi tout ce monde, on a une certaine crainte parce que ce ne sont pas seulement des êtres humains que vous croisez, tout ça. Ce sont des gens qui sont libres. Ce sont des gens qui ont une autre pensée de la vie. Quand on sort de ces endroits, on est toujours prisonnier. Je vous dirais qu'actuellement, moi, souvent, je me trouve en prison. Voilà. Et pourtant, ça fait déjà quelques années que je suis en liberté, et puis que je suis de la liberté. Mais ça reste toujours.
C'était Angel et la liberté, 8e et dernier épisode d'Angel, une série documentaire réalisée par Agnès Gontier, montage son Sofia Riboloff et Agnès, mixage Sofia. Merci à toutes les personnes ayant participé à l'élaboration de cette série. Merci à Angel, défenseur de la liberté, pour son témoignage sans haine ni vengeance. Sur les chemins de l'exil, une série documentaire de résonance sonore, soutenue par la région et la DRAC Occitanie. Retrouvez son podcast sur www.resonance-sonore.fr.